Alors c'est parti, nous allons entamer cette nouvelle conférence sur les livres mondes et l'envers des récits, jadis la ville infinie. Alors pour cette conférence en co-animation, il y aura Valérie Lawson à côté de moi. Et sinon, et ben, les personnes vont se présenter d'elles-mêmes et on commence par Charlotte.
C'est pas moi. En fait, je m'appelle Iris Despal. Je suis une Célène et je tire les cartes, j'assassine, j'empoisonne et je magique. Et ici à côté, le sieur va se présenter, je pense.
Moi, tu m'as donné le nom de Hieronymus. Moi, je suis le sieur. Moi, je fais à peu près rien de ce que fait Eris, à part tuer tout le monde. Donc, méfiez-vous.
D'autres personnages sympathiques de l'autre côté.
Alors, je précise tout de suite qu'ils parlent de leur personnage, en fait. Hein. C'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, mais qu'il y a, comme souvent chez les écrivains, cette difficulté à distinguer la réalité de l'imaginaire. Donc, moi, je m'appelle Régis Antoine Jolin. J'ai jamais été en hôpital psychiatrique, rien pour l'instant. Et voilà, enfin, moi, ça va.
C'est super de passer derrière. Donc moi c'est Nicolas, sauf que j'ai pas de nom véritable à l'intérieur de l'ouvrage, je suis maestro
quand même.
Et voilà, j'ai des vues, des idées, des plans pas possibles que j'aimerais arriver à réaliser. C'est au travers de l'expérience de toutes ces personnes que je mène à bien mes expériences graphiques.
Je parle de mon personnage.
La frontière est...
Alors j'ai cru qu'on était revenu dans la réalité avec Régis, finalement non, mais on va revenir quand même. Alors, on va rester un petit peu terre à terre, juste deux secondes. Un livre-monde, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Ah, Régis.
Alors, l'idée d'un livre-monde, c'est... Peut-être qu'on peut parler de la... Alors, on n'a pas pris de livre, donc sur nous, au minimum être devant nous pour le voir. Il est à la librairie en bas. Peut-être que tous ceux qui sont là ont déjà jeté un œil à ce livre.
Merci.
Peut-être qu'on peut préciser d'emblée que c'est un livre qui s'inscrit dans une collection particulière, une collection de livres univers qui a été créée, je sais pas, une dizaine d'années peut-être. Il se trouve que Raphaël et moi, on a connu les tout débuts de cette collection. C'était vraiment le tout premier ouvrage, c'était un guide, un faux guide Gallimard de balade dans une ville imaginaire. La ville imaginaire en question était Abîme, une ville qui peut par bien des aspects faire penser à jadis. Et à l'époque, l'idée c'était, à l'époque où les éditions Nemo étaient encore associées aux éditions Multisim qui publiaient des jeux de rôle, l'idée c'était de publier un livre qui puisse être à la fois un supplément de jeux de rôle, mais qui puisse être aussi lu par des gens qui ne connaissaient absolument rien en jeux de rôle. Il y avait eu cette idée de faire cet ouvrage inspiré un petit peu dans le format d'équipe bleue de chez Gallimard, des livres comme ça allongés. Il est peut-être lui aussi dans la librairie. Et c'est comme ça que c'est créé. L'ouvrage n'est pas sorti à l'époque. Il a mis 7-8 ans à sortir, puisque les éditions Multisim avaient malencontreusement fait faillite, emportées par l'explosion de la bulle Internet en 2001. Et l'ouvrage est paru une dizaine d'années après aux éditions de Nemos. Et à partir de là, c'est créé chez le Nemos un label qui s'appelle le label Ourobor, et dans lequel il y a eu comme ça une succession d'expérimentations, de livres mondes, de livres univers, de livres qui permettent de découvrir des univers imaginaires complexes, tout en offrant une narration littéraire à l'intérieur. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages de ce type-là à l'époque où Frédéric Veil notamment a pensé et réfléchi cette collection. Il y avait quelques ouvrages autour des cités obscures de Skuyton et Peters. Il y avait un livre qui nous avait énormément marqué avec Frédéric, qui était un faux carnet de voyage absolument sublime, qui s'appelle Les Îles d'Auvergne, qui est un livre que je vous recommande, qui est absolument extraordinaire, ça se passe dans un univers...
Sequoia
Productions. Imago Sequoia, c'est le pseudonyme de l'auteur. C'est un livre extraordinaire, parce qu'on se balade en 2050, après la montée des eaux, Sur la Terre, il y a une carte sublime, un travail de cartographie absolument sublime, dont on s'inspire, puisque jadis, dans son édition en souscription, était fournie avec une carte qu'on peut apercevoir, peut-être qu'on peut la montrer, une carte dont on peut apercevoir des morceaux sur le deuxième ou troisième de couvre. Voilà, en fait, il y a cette idée d'expérimenter une narration axée autour de la présentation d'un monde imaginaire, comme on peut le croiser dans le jeu de rôle dans la science-fiction, c'est-à-dire des mondes imaginaires avec des règles complexes, et de faire entre-apercevoir leurs règles physiques, si elles sont particulières, si on est dans un univers de science-fiction. Pour jadis, il s'agit surtout de règles d'organisation de la société, même si on va le raconter, je pense, on a tout un background assez particulier qui fait celle de l'univers. Mais pour continuer à présenter la collection, je vais passer la parole au directeur de collection, parce que c'est monsieur Granier de Cassagnac qui s'en occupe.
Tu viens de révéler mon vrai nom. Non mais, tu as essentiellement tout dit. Ce que je peux rajouter, c'est quand on a fait Abîme, le tout premier, on s'est rendu compte d'une chose importante, c'est qu'un... Comme tu disais, l'idée c'est que c'est un espèce de guide touristique d'une ville qui n'existe pas. Donc c'était la façon de présenter l'univers. Donc, l'univers dans ce cas-là, il est restreint à la ville. Donc on voulait présenter la ville vraiment sous la forme d'un guide touristique comme vous les connaissez. Et on s'est rendu... L'intérêt d'un guide touristique, c'est quand vous vous baladez dans la ville avec et puis que vous voyez les monuments. Donc là, évidemment, ça n'existe pas, sauf peut-être pour les rôlistes qui s'offrent des aventures dans ce monde-là. Et il nous est apparu absolument impérieux de doubler le fait que ce soit un guide touristique d'une narration. Et donc, on peut concevoir des livres univers, je pense, sans narration, mais c'est très très difficile et le lecteur ne va pas s'y retrouver la plupart du temps parce que le monde qu'on décrit est justement imaginaire. Donc, on n'y est pas, on ne s'y promène pas. Donc, il est très important dans un livre univers d'avoir en plus la narration. Donc, dans le label Ouroboros, on en a fait, je crois qu'on doit être au 13 ou 14e là maintenant. Ils ont tous des formes assez différentes. Donc, la narration et la présentation de l'univers s'adaptent complètement à l'univers. Donc on va centrer, je pense, surtout sur Jadis aujourd'hui. Mais à chaque fois, il faut trouver la bonne façon, dans un livre univers, il faut trouver la bonne façon de présenter l'univers qu'on veut présenter. Et ça dépend complètement de la nature de l'univers lui-même.
Alors, moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un jeu de rôle sans règles?
Question brute.
Non, parce que... Alors, dans Jadis, les auteurs ont joué un rôle dans des modalités qui ressemblent un petit peu au jeu de rôle, mais on en reste quand même très loin. C'est pas un jeu de rôle sans règles, parce que le lecteur ne joue pas de rôle du tout, quoi. Non, on présente un univers, on raconte une histoire. Ça se rapproche pour moi beaucoup, beaucoup plus du roman que du jeu de rôle, très clairement. Alors, ça peut dépendre du bouquin, mais je pense que dans la collection, il n'y en a aucun où le lecteur peut jouer un rôle. Non, du tout.
Vous m'entendez tous sans micro, là ? Comme ça qu'on puisse
rebondir.
Pour faire une parenthèse, ce sont d'abord des romans, oui, c'est d'abord une œuvre littéraire. Alors par contre, ce qu'il y a de commun à nous tous, c'est qu'on est tous rôlistes, on est tous plus ou moins issus de ce milieu-là. Donc c'est sûr qu'il y a des pratiques et des façons de procéder qui sont issues de ça. Mais autrement, profondément, d'abord, c'est de faire un ouvrage. Voilà, que ce soit dessin ou que ce soit la partie dessin ou la partie écriture, c'est d'abord un ouvrage.
Et on est tous rôlistes sur Jadis, hein, sur les autres Ouroboros.
Pas forcément.
On est très loin, les auteurs sont très très loin d'être tous rôlistes.
Hein. Ouais. Alors justement, est-ce que peut-être l'un de vous, ou quelqu'un d'autre, a masterisé dans ce monde, en tant que maître de jeu ?
Dans Jadis ?
Ouais.
Alors c'est compliqué.
Vous étiez chacun un joueur et personne n'était
non.
Le maître de jeu ?
Alors, pour les... Ouais,
vas-y. Bah, je dirais qu'il y a eu des rencontres dans le procédé d'écriture. En fait, on avait chacun un personnage. On avait chacun choisi un personnage qui est sur le grand machin, là, sur le tableau. Et en fait, il se trouve que nos narrations, qui étaient complètement indépendantes, donc en fait, seul maestro, donc Nicolas... Raphaël, qui tirait les ficelles, avait accès à nos textes. Et on avait chacun choisi un personnage qui nous était propre. Et il se trouve que dans les narrations, nos personnages se sont croisés. Donc on a organisé des rencontres réelles. Donc moi, j'ai rencontré Mathieu, qui incarnait Silencio, donc, qui était le héros de son récit. Et il y a eu des interactions. On a eu aussi une pièce de théâtre. voilà, qui a été joué.
Lui
est joué, hein, c'est voilà, nos personnages se sont croisés, on a discuté ensuite de nos personnages ensemble, d'une fin à donner au récit, mais de véritables approches rôlistiques avec une partie à mettre de jeu, ça n'a pas encore été fait pour l'instant.
Peut-être qu'on peut raconter quand même dans l'ordre comment est né le livre, parce qu'il y a bien, à l'origine de cet univers, une envie de jeu de rôle. Jadis, c'est un univers qui a été inventé au milieu des années 90. Moi, je crois que les premières fois que j'en ai entendu parler, c'est vers 96-97, par Frédéric Veil. Frédéric Veil, qui était à l'époque éditeur des éditions Multisim et qui est le créateur d'un jeu de rôle qui s'appelle Néphilim. Juste après Néphilim, Frédéric avait vraiment cet univers de Jadis en tête. Et il en avait posé les grandes lignes, les grandes bases, on peut peut-être même les raconter là, d'emblée maintenant. C'était l'idée d'une ville infinie, telle qu'on l'aperçoit dans les images de Nicolas, mais vraiment infinie. C'est-à-dire que nul n'est jamais allé au bout de cette ville. C'est une ville posée sur un univers entièrement plat. Personne n'a jamais atteint les limites de cet univers. Et la grande spécificité de ce monde, qui est un univers de renaissance, voilà, comme une espèce d'immense renaissance italienne de Rome infinie, la grande spécificité de cet univers, c'est que le monde y est éclairé par un soleil qui est fixe. C'est-à-dire que le soleil palpite au fur et à mesure de la journée, il s'éteint petit à petit quand la nuit tombe, pour devenir une espèce de lune, mais voilà, il est fixe dans le ciel, ce qui signifie que les ombres sont dans Jadis tout le temps les mêmes, les climats sont tout le temps les mêmes, si on est plus ou moins loin ou non de ce soleil. Et la grande spécificité de cet univers, qui est vraiment au départ un univers de jeu de rôle, c'est que dans ce rouet solaire vit Dame Fortune, qui est la déesse de cet univers, et qu'elle tisse le destin de tous les habitants. Pour tisser le destin des habitants, elle se saisit d'un fil qu'elle tisse sur son rouet. Elle trempe ce fil dans l'un des fleuves, ce qui lui permet de donner une teinte particulière à la vie et au destin que la personne va pouvoir incarner. Le fil peut changer de matière. Parfois, elle file du coton, parfois, elle file du cuivre, parfois, ce sont des fils d'or. Et à la mort de quelqu'un, en fait, ce fil est rompu. Il est coupé, Dame Fortune les récupère et elle peut tisser un nouveau fil. D'emblée, on est dans une logique de jeu de rôle puisqu'on a tout de suite un système de réincarnation possible. Si mon personnage meurt, Dame Fortune va récupérer le fil et en refaire une seconde vie. On va renaître au monde en pouvant avoir par moment, par flash ou en faisant appel à des sérènes, des gens qui lisent les tarots, pouvoir avoir des souvenirs de ses vies précédentes. Et on est dans un univers qui est basé avant tout sur ce principe de réincarnation, qui est un principe très utile dans les jeux de rôle et les jeux vidéo évidemment, et basé sur ce principe de réincarnation qui permet vraiment de vivre mille vies. Et ça rejoignait, le concept même de cet univers rejoignait l'envie d'un univers de cap et d'épée, d'un univers qui renvoie évidemment aux Trois Mousquetaires, à Don Quichotte, à Pardaillan, au Capitaine, à Fanfan la Tulipe, voilà, et cette idée d'un univers extrêmement picaresque où on peut mourir, mais c'est pas bien grave, parce que si on meurt pour un crime d'honneur, ma foi, c'est pas très grave, on va se réincarner. Voilà le principe, et donc Frédéric avait posé comme ça toutes les bases de cet univers. Toute la fin des années 90, moi j'avais la chance de traîner un peu du côté de Multisim, et l'univers revenait comme une ritournelle. Je pense qu'il n'a pas vu le jour à l'époque, parce que les livres de Mathieu Gabory s'inspiraient aussi d'un univers comme ça, avec ce même type d'architecture, et que le succès d'Agon, l'univers était peut-être trop proche des très beaux romans de Mathieu, mais qui, je pense que si on regarde effectivement je feuilletais le Abîme dans la même collection avec de magnifiques gravures de Gérard Trignac, il y en a certaines dont on pourrait se dire qu'elles appartiennent à Jadis. Donc l'univers n'est pas né, n'a pas pris forme à cette époque-là. Et pourtant, Frédéric avait travaillé. Il y avait une espèce de bible, ce qu'on appelle, décrivant l'ensemble de ce qu'on appelle la pyramide des fanfreluches. Alors, la pyramide des fanfreluches, c'est toute l'organisation sociale. Parce qu'il y avait dans l'idée d'aller vers un univers avec tout un système de courbettes, de hiérarchies extrêmement complexes entre les guildes, pas d'aristocratie, parce qu'on est dans un monde plutôt bourgeois où il n'y a pas réellement d'aristocratie, ou si l'aristocratie existe, elle est déchue, parce qu'il y a une époque qui a précédé le temps du règne de Dame Fortune.
Le temps jadis.
Mais voilà, pour répondre à la question de Farid, il y a bien un concept de jeu de rôle au départ. Et ce qu'on a reçu au moment où l'idée s'est faite de... Parce que c'est quand même une belle histoire, une histoire extraordinaire que cet univers. On a reçu au début du travail une encyclopédie nous décrivant à quoi ressemblent les animaux dans Jadis. En l'occurrence, il y en a très peu, puisque la nature n'a pas d'espace. On est dans une ville infinie. Il y a quelques zones de friche ou appelées outre-ville, quelques endroits où il y a des ruines de l'Empire. Donc, tous les animaux sont inspirés, proviennent de l'héraldique moyenâgeuse. À quoi ressemblent les différentes peuplades. Mais il n'y a pas vraiment de peuplade dans Jadis, la plupart sont humains. Il y a quelques créatures étranges qu'on appelle les Sélènes, qui seraient liées à une lune qui a existé du temps de l'Empire, mais qui aurait disparu depuis. Il y a des bougres, hein. Les bougres sont les nains qui travaillent dans les souterrains de Jadis, qui gèrent les égouts, et les champignonnières, puisque Jadis, on mange beaucoup de champignons, puisqu'il y a assez peu d'agriculture. Voilà, on peut retrouver ces éléments de départ à la fin, même s'ils ont été réécrits depuis, à la fin du livre, il y a une espèce d'encyclopédie, et donc on recevait comme ça des éléments d'encyclopédie décrivant les différentes castes, je peux les décrire rapidement, qui sont les désolé, je manipule la parole.
Non, c'est très bien.
Je manipule la parole.
Mais tu peux la manipuler aussi,
voilà,
si tu veux.
Bon, je m'invite, et tu décriras les ménestrels, les picaresses, les différentes castes qui existent dans l'univers qui est très codifié. Et tout ça pour dire qu'on a reçu cette encyclopédie et libre à nous d'inventer à partir de cette encyclopédie qu'on trouve à la fin du livre, chacun une histoire. Et pour rajouter un peu de jeu à tout ça, effectivement, il nous a fallu choisir un personnage parmi les 32 personnages dessinés par Nicolas. Et qu'on a reçu un mot avec ce tableau-là, qui représente des 32 personnages, nous disant « Bon, ben, vous avez été invité ce matin au Palais des Miroirs Véritables, il ne s'est rien passé, dites-nous ce qui s'est passé, pourquoi vous étiez là, etc. » On n'avait pas d'autre indication de plus, si ce n'est l'encyclopédie et le personnage qu'on avait en tête et qu'on avait envie de, pas de jouer, mais d'interpréter. Excusez-moi.
Oui, c'était parfait. Personne ne sait plein. Alors, justement, dans cette façon de construire, est-ce que vous avez cherché à uniformiser vos écritures? Est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce que chacun a gardé sa patte? Ou est-ce qu'il y a un moment où il a fallu trouver le moyen que les choses concordent?
Non, au début, chacun est vraiment parti en solo absolument comme il voulait. Donc jusqu'à la moitié du bouquin, en gros, il n'y a aucune convergence prévue entre les auteurs. Chacun écrit exactement ce qu'il voulait, mais avec un dialogue essentiellement avec Nicolas et moi. Donc chaque auteur dialoguait avec Nicolas et moi. Il nous envoyait ses textes. Alors, au début, il ne savait pas que moi je les recevais, mais ça c'est anecdotique. Et Nicolas leur renvoyait des illustrations pour dire voilà ce qui se passe. Donc toi, tu as avancé. Par exemple, il y a un moment génial où toi, tu nous envoies un texte et à la fin de ton premier texte, tu ouvres un coffret et tu nous dis bah, quand je l'ouvre, je ne peux pas m'empêcher de réprimer un cri et tu ne nous dis pas ce que c'est. Donc en réunion avec Nicolas, je dis, qu'est-ce qu'on va lui envoyer? On réfléchit, on trouve un truc, il dessine le truc, on lui envoie et tu nous réponds, ah oui, mais tu as oublié trois choses. Ça illustre bien comment le processus d'écriture s'est fait jusqu'à la moitié du bouquin. Et évidemment, quand même, à la fin, alors on aurait pu garder quatre récits complètement indépendants jusqu'au bout, mais ce n'est pas ce qu'on a voulu faire. On a quand même voulu essayer d'inscrire ces quatre récits dans une méta-histoire complexe, donc réunir les quatre personnages, faire en sorte qu'ils aient en fait un but un peu commun, qu'ils se rencontrent. Et c'est là qu'on s'est cassé la tête avec Nicolas pour inventer une histoire qui n'était pas du tout là au début de l'ouvrage. Donc on a, en capitalisant, si je peux dire, sur les récits des trois autres et même des quatre autres et même des illustrations de Nicolas. On a essayé de trouver le point commun de tout ça pour réussir à inventer l'histoire qui converge à la fin vers une histoire commune. L'histoire, on prétend qu'il y a une histoire commune depuis le début. En fait, nous, dans notre processus d'écriture, elle n'était pas du tout là, l'histoire, au début. On l'a inventée au fur et à mesure.
Escroquerie totale, reprenez ce livre.
Ah, mais c'est une escroquerie, ce livre, c'est absolument sûr. Et au niveau du style, non, absolument pas, pareil. Aucune uniformisation de style. Bon, on est dans la Renaissance, donc chaque auteur a choisi une façon d'incarner la Renaissance qui lui est propre. Et elles sont très différentes, les quatre façons, je pense. Et on n'a absolument pas imposé une uniformisation du style. Et même j'y tiens, ça, vraiment, à ce que l'approche des quatre auteurs soit très différente et très marquée.
Ouais. Juste pour être extrêmement limpide, on connaissait une règle du jeu, c'est qu'on allait écrire 5 chapitres différents. C'est-à-dire qu'on devait au moins faire 100 000 signes. Et donc chacun de nos chapitres devait faire entre 15 et 20 000 signes, ce qui correspond à 10-15 pages sous Word ou quelque chose comme ça. Et donc on savait juste ça, et on rendait chapitre après chapitre. Donc voilà, on avait cette première contrainte qui était « racontez-nous ce que vous faites là », ce qui était une contrainte qui n'en était pas une, parce qu'on nous a d'emblée lancé dans l'histoire avec une extrêmement grande liberté. Mais on savait qu'on allait avoir comme ça 4 moments d'aller-retour entre nous et entre les auteurs et Nicolas, et que peut-être un jour on allait pouvoir se croiser entre personnages. Mais on ne savait même pas, il y a ces 32 personnages sur l'illustration principale, on sait que chacun savait que le personnage incarné par Raphaël, celui incarné par Charlotte, celui incarné par Mathieu, était présent dans l'image, mais sans savoir lequel c'était réellement. On ne savait même pas physiquement lequel c'était. Voilà pour expliciter juste le jeu de contraintes, et je passe le micro à M. Fructus.
Justement, là, il y a eu plusieurs allers-retours. Avec les prérequis de Frédéric Veil, toi, Nicolas, est-ce que dès le départ, tu as fait une illustration concernant les personnages, les 32 personnages, c'est ça? Tu en as fait d'autres, à part cette illustration? Tu as commencé à donner du thème?
Après, il y a tous les personnages annexes qui interviennent dans les histoires. Il y a 2-3 générations de dessins différents. Il y a tous les dessins qui étaient là pour anticiper sur les textes, c'est-à-dire sur lesquels chacun des écrivains a pu rebondir. Et après, il y a une deuxième phase de dessin que j'ai faite, alors pas à tous les endroits, mais quelquefois pour compléter ce qui avait été écrit par les auteurs, donc pour préciser dans ces cas-là où il y a plein de nouveaux personnages qui arrivent, il y a plein de choses que j'ai dessinées après postérieurement. Donc oui, ça fait bien plus de personnages. Même si on a essayé après, c'était l'un des jeux avec Raphaël aussi, c'était de garder les fameux 32 du départ et de leur donner un sens aussi, puisqu'ils étaient déjà là, donc ça ne servait à rien de... Voilà.
Juste un peu de technique graphique, là on voit il y a deux styles différents, un peu l'angle de chi et de la couleur.
Alors, ça, le principe des images marche un peu finalement comme l'écriture, sauf que, ouais, pour le coup je suis tout seul, mais le...
Non, on est avec toi.
Dans
vas-y.
La tête,
il y a plein de voix qui me parlent. Et mais c'est un peu commun à tous les livres que l'on a pu faire ensemble sur la collection Ourobore. Même si ça parle d'un seul et même endroit, l'intérêt, je trouve, est justement de l'attaquer sous 3-4 approches graphiques différentes. Parce que j'ai toujours intimement pensé que ce qui donnait un style ou un état d'esprit à un ouvrage ou à une suite d'images, c'était pas tant d'avoir des images qui étaient dans le même jus, mais au contraire qui étaient extrêmement différentes, et où on pouvait se dire par évidence, ah mais ouais, tout ça contribue du même univers, même si d'un côté on a une petite esquisse, voilà, on a un dessin comme ça, qui est plutôt esquissé, à quelque chose de très ancré au rotring, à de la peinture, à de l'image beaucoup plus numérique, à des... voilà, de passer un peu par tous les prismes de l'image, parce que dans la réalité, Le dessin correspond aussi à des états d'esprit et à des mises en scène différentes. Il est évident que sur une scène d'action, on ne va pas commencer à tout lécher et à passer 2 mois sur une image pour dire « regardez comme le mouvement est beau, on n'en a rien à faire, il vaut mieux une image beaucoup plus rapide qui aurait été faite en même pas une heure » et puis taper à côté une grande carte en 4x3 pour arriver à mettre toutes les informations. Et je trouve que la logique du dessin, je trouve, doit aller de pair avec la dynamique d'écriture globale à l'ouvrage, et au même titre que il n'a jamais été l'intention de brider les auteurs pour qu'ils entrent dans des voilà, qui soit surtout pour certains c'était juste impossible, voire pénalisant pour nous. Il valait mieux. C'est plus intéressant de garder la spécificité de chaque chose et d'arriver dans la synthèse à se dire bah oui voilà c'est ça jadis. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois.
Alors justement là, on a parlé de la façon dont vous avez travaillé pour revenir sur l'univers. Qu'est-ce qui différencie d'une Renaissance italienne de l'univers de jadis au niveau technologique, éventuellement les aspects fantastiques, etc.
Non mais c'est plutôt à toi de, je pense. Hein. Qu'est-ce qui
plein de choses.
Énormément de choses. Déjà c'est quand même un. C'est pas seulement la Renaissance italienne, c'est aussi une foultitude de ans, donc qui sont autant de cultures différentes. Il y a la Hanse de Jade qui s'inspire, si je ne m'abuse, du Japon médiéval. Hein, on a un petit peu de source d'inspiration de France du XVIIe siècle. Voilà, elle est en pleine période de Cyrano. On a un peu d'Inde aussi. On a des trucs un peu bizarroïdes. Une anse qui est entièrement. La anse de Zircon qui est entièrement constituée de jardin. Donc en fait, c'est une ville infinie et aussi une infinité aussi de civilisations et de mondes possibles. On a également beaucoup de vestiges d'anciens mondes, de ruines perdues au milieu du désert qui ont été quelque chose à un moment donné qui ne sont plus rien. Et voilà. Donc après, je te passe la parole.
Il est créature fantastique aussi, donc il n'y a pas d'animaux, mais il y a des licornes, des dragons, des choses comme ça. C'est l'équivalent des animaux. Non, regarde la définition animale dans le dossier tout à l'heure. Donc il y a ça, il y a des créatures mécaniques aussi qui sont un héritage des temps anciens, donc il y a c'est aussi des animaux mais pour la plupart, mais qui sont mécaniques. Il y a les automatons, les sélènes et les bougres, donc il y a des races un peu, pour parler metfan. Il y a les chromatiques qui sont des personnages qui errent dans les ruines, qui sont mystérieux. Donc il y a pas mal d'ajouts sur la Renaissance classique qui vont vers le fantastique. En termes architecturaux, t'as poussé aussi un peu les curseurs, je pense.
Oui, et puis l'idée aussi, c'était de se rapprocher d'un monde un peu à la De Vinci, où De Vinci a pu faire ce qu'il voulait. Alors, pas forcément De Vinci, parce que dans les influences, après, ça va de l'Italie en passant par la Hollande. Enfin, il y a un peu tout jadis, et plus représentatif d'une époque que d'une région géographique. Mais après, oui, sur tous les bâtiments, surtout, c'est le décalage, il se fait par une technologie qui est un peu plus poussée. C'est, oui, ce serait du De Vinci qui serait plus allé jusqu'au bout. Donc, voilà.
Et la magnétite. Vas-y, parle-nous de la magnétite.
Ah, oui, et surtout l'univers à sa propre magie, qui est lié à l'histoire de Dame Fortune. C'est-à-dire que Dame Fortune, non seulement tisserait, tout l'enjeu du livre est de savoir si c'est une mythologie ou une magie concrète. Je peux le révéler, c'est une magie concrète.
Donc, c'est une mythologie.
Non seulement Dame Fortune tisse le destin de tous les habitants, mais elle tisse aussi la toile de l'univers. C'est-à-dire que le monde entier dans lequel cette ville infinie aurait été pensé, fabriqué, tissé par Dame Fortune. Et à partir de là, il y a toutes des espèces de systèmes de magie qui s'imposent. Par exemple, on pense que les ménestrels, tous les musiciens dans jadis, ont cette capacité de renforcer la toile de Dame Fortune. Parce que leur musique fait vibrer la toile, et elle donne comme ça de la force et de la puissance. Cette musique peut donner de la force ou de la puissance à certains bâtiments qui autrement s'effondreraient, serait impossible. Les opéras jouent non-stop, en permanence. Les ménestrels sont une espèce un peu de religieux d'univers qui jouent de la musique comme ça non-stop. Et la légende veut que si jamais ils arrêtaient de jouer de la musique, la toile de Dame Fortune arrêterait de vibrer et s'effondrerait. Plusieurs. On a donc cette magie très concrète. Hein, qui est cette possibilité qu'ont les musiciens, les artistes, et là on est vraiment dans l'esprit des machines de De Vinci, les ingénieurs, ont cette possibilité d'influer sur la toile de Dame Fortune. On voit apparaître des moments des espèces de vaisseaux volants qui filent sur des, comme ça, sur des espèces de fils qui sont eux aussi des fils de l'univers tendu par la fortune. Et donc on a en plus, voilà, on a toute cette magie qui est reliée à la mythologie globale de l'univers.
Alors, une question très simple. Pourquoi jadis ? Qu'est-ce que veut dire jadis ? Est-ce que la temporalité a du sens ou pas ?
Si quelqu'un sait, c'est toi, parce que tu étais là il y a très très longtemps quand le nom a
surgi. Jadis.
Non, je crois que ça fait joli, en fait.
Ah, okay.
Non, c'est le titre, ça a toujours été ça a toujours été le titre de travail de l'univers.
Avec sa version anglaise aussi. Yor.
Et voilà, ça fonctionne aussi en anglais, on dit c'est Yor. Et non, je sais pas, ça a été le titre de travail de l'univers.
Mais alors, du coup, je continue sur la temporalité. Est-ce que jadis a un avenir ? Est-ce que c'est une ville qui est figée ? Est-ce que jadis est un avenir ? Je suis assez figée.
Alors, jadis a un passé, en tout cas. Puisqu'avant que Dame Fortune. Puisqu'avant que Dame Fortune existait à la place, en lieu et place, un empire, qui était moyenâgeux, plutôt de type médiéval, qui s'est effondré en même temps que la Lune s'est effondrée aussi, quelque chose d'assez étonnant. La Lune a disparu en même temps que l'empire. La légende raconterait que l'univers tout entier s'est effondré. Et que, comment s'appelait-il, je ne sais pas, de grands héros ont fabriqué d'immenses nefs, d'immenses bateaux dont on voit les ruines au centre, dans le désert du Tatar, qui est au centre de la ville infinie, sous le rouet solaire. On voit les ruines, on les aperçoit, il y a des images, on peut les voir, on aperçoit les ruines de ces nefs immenses où la population s'est réfugiée, jusqu'à ce que Dame Fortune surgisse, fasse tourner son rouet solaire, monte au ciel et éclaire le monde et fasse, selon la légende, apparaître l'ensemble des immeubles. C'est tout ce que j'en sais.
Je ne sais pas beaucoup plus. Charlotte, on sait plus.
Ce qu'on a tissé, en tout cas, dans Jadis, c'est aussi l'avenir de Jadis, puisqu'on raconte quand même la naissance des picaresques qui n'existaient pas avant qu'on décide de l'inventer.
Spoiler.
Mais donc Jadis a un avenir qui se tisse même maintenant, je dirais, qui est en train de se tisser au moment où on parle, mais dont on ne sait pas grand-chose, pour l'instant. On commence à avoir des idées.
Et plus concrètement, il y a un jeu de rôle qui va sortir donc un avenir.
Avec des créations de personnages.
Alors justement, puisqu'on parle de création et puisque tu parlais des îles d'Auvergne, sur lesquelles moi j'ai eu la chance de voir une exposition en 96 à Nancy, qui est magnifique, est-ce que ça s'envisage justement de créer des maquettes, de créer en plus du jeu de tarot qui est déjà magnifique, mais est-ce que vous envisagez une potentielle exposition avec des choses qui prennent vie
Justement, Nicolas, tu n'avais pas la sculpture
puisque c'est très architectural, on est typiquement dans le genre de choses auquel on rêve d'une maquette, d'une reproduction miniature. Enfin, moi j'en rêve en tout cas, vous aussi je suis sûre. Enfin,
lance pas Nicolas sur l'idée d'une maquette infinie.
Moi j'aime bien l'idée.
On va le perdre.
Des énormes fanfreluches. Mais oui, c'est une super idée.
Je dis ça parce que sur les îles d'Auvergne, par exemple,
il y avait
des vaisseaux qui volaient avec des poumons de baleine qui les faisaient voler. Et voilà. c'était chouette.
Non, je ne saurais pas trop que te répondre parce qu'il y a déjà.
Le jeu de rôle.
En fait, non, mais même en dehors du jeu de rôle, tu vois, rien que la carte, en fait, la carte, elle fait. À son échelle normale, elle fait 60 par 80 à peu près, et c'est tout travaillé au rotring 0,2 mm. Donc là, quand tu fais ça, en fait, c'est...
Mais
c'est
il est tout seul dans sa tête, à part ça.
je l'ai perdu pendant 3 mois, à cause de cette carte. Hein.
Parce que je suis arrivé un jour avec un bon en disant « Vous croyez que c'est une bonne idée ?» J'avais fait 10 bâtiments. Mais en dehors de ce jeu-là, mais c'est comme de la maquette, c'est-à-dire que tu es obligé de voir et de construire tous les volumes donc le, et de raconter des histoires. Et de, mais en fait, il y a déjà 10 000 histoires rien que sur cette carte. Et là aussi, on s'est posé la question pendant l'ouvrage, est-ce qu'on intègre des choses qui viennent de la carte pour les redispatcher, mais c'est, enfin, c'est pas possible. Il y a un moment où il n'y a plus que le jeu de rôle qui peut gérer ce genre de choses, ou de redispatcher ça sur différentes narrations. Enfin, oui, il y a des, oui, il y a de toute façon des, il y a un flou qui existe, qui est déjà présent, mais ouais, qu'on n'arrive même pas à lire sur la carte. Enfin, faut en détailler. Mais il y a des.
Tu l'envisages pas comme un cabinet de curiosité où on pourrait sortir des éléments, des.
Si. Ouais. Ben, il y a des, c'est. Ne serait-ce que sur les éléments architecturaux pendant que je faisais la carte, parce que moi je regarde. En fait, je regarde facilement la télé en dessinant. Ça paraît bizarre, mais c'est une sorte de musique.
C'est un scoop.
Et vu le nombre d'heures que j'ai passé sur la carte, j'étais là gratté. Il y avait un reportage sur le Colisée à Rome. Et ce que je ne savais pas, c'est que le Colisée, pour son inauguration, a été intégralement inondé. Donc on a fait une bataille navale. Et il se trouve qu'antérieurement au principe des Colisées, il y avait des bassins de bataille navale dans la Rome antique. Et ces bassins allaient jusqu'à des tailles deux fois supérieures à celles du Colisée aujourd'hui, enfin de ce qui reste du Colisée, et que le précédent bassin servait à faire des vraies batailles navales, avec des galères et tout, et ils allaient se taper dessus, c'était le spectacle.
J2.
Et du coup, sur la carte, il y a tout un système d'écluses pour irriguer effectivement une sorte de Colisée avec des trucs pour. Tout ça, c'est sur la carte, mais je n'ai jamais raconté, je ne suis jamais allé. Je te dirais où ça, mais.
Tu aurais dû raconter.
Mais il y a plein de choses comme ça. Et je trouvais que sur Jadis, c'était marrant d'avoir un endroit où les bateaux pouvaient aller se taper dessus, vu qu'il y a 7 fleuves principaux, plein d'irrigations, plein de zones à moitié inondées. Qui sont des sortes de Venise, des Venise ou des Hollandes en puissance, et le principe de bataille navale, de choses comme ça, de jeux d'eau aussi, qui sont. Après, il y a des champs sémantiques aussi qui sont développables à l'infini, mais sur le thème de l'eau, des écluses et tout, là, c'est aussi c'est du poste de Vinci, mais il y a tellement de choses à faire sur l'hydraulique. Alors, tout ce que prévoyait par exemple de Vinci sur l'hydraulique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont finalement abouties dans Jadis, qui correspondent un peu au délire qu'il avait d'assèchement de zones entières, de réorganisation de canaux pour alimenter les villes en parallèle. Enfin voilà, c'est un peu, il y a plein de pistes comme ça, mais et puis pas que sur la carte, enfin il y a plein d'éléments. Et puis autre élément, alors je suis désolé, je suis un peu long, mais il y a aussi dans les pistes en fait qui ont été assez marrantes. On s'est aperçu de ça pendant la réalisation. Mais quand je faisais des images qu'on envoyait, donc régulièrement, où chacun des auteurs a pu rebondir, et puis je leur avais laissé un dossier, on partageait un dossier sur Internet, avec, je leur avais dit, ben voilà, là il y a des images, c'est pas la poubelle, mais c'est là où je mets d'autres images, vous puisez ce que vous voulez et tout. Et en définitive, personne n'a puisé directement là-dedans, ce qui n'est pas grave du tout, puisqu'il y avait déjà des images qui racontaient, qui étaient intégrées dans vos histoires sur lesquelles vous rebondissiez. Ils rebondissaient déjà tous sur les images, donc ça faisait d'autres images sur lesquelles ils n'ont pas particulièrement rebondi. Mais moi, je me construisais des films à côté aussi, donc c'est tout ça. Voilà, il y a et puis même de ce qui existe des textes aussi, il y a plein de choses sur lesquelles il y a eu des discussions off aussi sur certains éléments.
On pourrait avoir un tome 2, tu veux dire.
Oui, en volume d'idées, oui, sans problème, enfin même plusieurs tomes, enfin c'est pas... oui, c'est un monde autonome. Enfin, je trouve qu'il y a un côté monde autonome, ouais.
Là où, pour répondre quand même à la question, ce qui est intéressant,
tu peux répéter la question parce qu'on l'a tous oublié.
Un cabinet de curiosité des objets réels.
Évidemment, si quelqu'un, si tu veux faire une maquette en allumettes,
je vais parler à Frédéric.
Tel et tel bâtiment.
Alors pour ce dîner de cons, je m'en vais.
Tu peux le faire, tu l'as bien dit. Si tu veux faire des sculptures en marbre avec des personnages, je l'ai dit, tu es la bienvenue. Mais c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est un point de départ. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir le jeu de rôle, donc le jeu de rôle va forcément nourrir énormément cet univers. Et
Je pense qu'un jour, il y aura d'autres romans qui se passeront dans Jadis. Je pense qu'un jour, il va se passer plein de choses. Et peut-être qu'un jour, il y aura de quoi, parce que notamment les relis s'emparent facilement comme ça des univers, et peut-être qu'eux vont s'amuser, certains, à fabriquer des maquettes. Et peut-être qu'un jour, il y aura une exposition de Jadis, avec comme ça des éléments, notamment sur les choses sublimes, sur les armures, de la Renaissance. On aperçoit dans le travail de Nicolas quelques-unes des images fortes, emblématiques de Jadis, sont ces armures vides, animées comme ça, qui est animées d'une lumière étrange qui est peut-être celle de Dame Fortune, et qui traversent beaucoup de l'empereur, et qui traversent l'univers. Donc, c'est un point de départ. Ce livre est un point de départ, c'est un livre univers, et je pense qu'en le lisant, on se rend compte qu'on ne fait que croiser que quelques-uns des destins qui sont possibles dans Jadis, c'est qu'il y en a mille autres à inventer, qu'on compte sur les rôlistes, les illustrateurs, les romanciers pour nous raconter les autres destins de Jadis. On a juste eu, nous, le privilège de pouvoir être les premiers à poser le pied là-bas.
Donc concrètement, vous allez créer une communauté Jadis.
Ouais, le gourou, c'est moi.
Alors justement, le jeu de rôle est déjà en place, les règles.
En test. On a fait la toute première création de personnage. Oui, donc il y a quelqu'un qui est chargé de développer le jeu de rôle, c'est acté, ça va se faire. Le système de jeu est embryonnaire, il existe. Il donne une grosse part au tarot. Donc le jeu de tarot aura une part à jouer importante dans les mécanismes de jeu. Voilà. C'est à la fois dommage pour ceux qui n'ont pas pledgé, et en même temps c'est bien pour Nicolas, parce qu'on va revendre le tarot plein de fois.
D'autres questions ? Allez. Et comment est-ce qu'on se détache des choses imposées quand on entre dans un univers qui n'est pas le sien, qu'on n'a pas créé soi-même ? Comment est-ce qu'on va... Alors, je sais que vous êtes tous rôlistes, c'est un peu plus facile, mais est-ce que c'est pas plus difficile de partir avec des figures imposées ?
Alors, en fait, pour moi, c'est la même chose que dans n'importe quel univers et n'importe quel... J'ai écrit pas mal de romans historiques, c'est exactement le même procédé. Sauf que, évidemment, comme je fais 15 000 trucs à la fois, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc en fait, ça se détache assez vite. Mais globalement, on a eu la Bible entre les mains, on a eu des discussions, et puis, pour ma part, en fait, j'ai reçu cette invitation à me rendre devant ce tableau et à raconter la plus belle histoire qui me soit jamais arrivée. Et j'ai lu les trucs de travers, et effectivement, j'ai commencé à répondre vraiment à Maestro et raconter des trucs qui se passaient avant. Donc, quelque part, je m'étais déjà approprié des morceaux de Jadis et je les avais déjà fait à ma sauce. Et je pense que dans la mesure où on a chacun pu garder notre plume et puis chacun donc notre personnalité, sachant que on a une identité qui se fond dans Jadis, qui est en même temps, moi j'ai pas ressenti, alors peut-être c'est pas forcément toujours le cas, mais j'ai pas du tout ressenti comme une contrainte. Et voilà, et c'est juste qu'au bout d'un moment, on arrive normalement à s'approprier un univers et à le rendre personnel. Et là, ce qui était vraiment, vraiment sympa, je trouve, c'était le côté ludique qui permet une création collective, puisque vraiment c'était... en l'occurrence, Nicolas envoie une illustration, je prépare un texte, lui était derrière à tirer les ficelles, mais on n'était pas au courant. Voilà, et c'est cette espèce de jeu à plusieurs qui fait que de toute manière, il y a une création collective qui se fait. Voilà.
Non, mais il y a plusieurs aspects. Il y a le fait que l'univers est très vaste. Donc il y a vraiment, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a vraiment de quoi écrire des tas de choses dans cet univers-là. Donc chacun pouvait prendre sa petite partie, s'inspirer d'une partie de l'univers. C'est un premier aspect. Deuxième aspect, Frédéric n'a pas recruté n'importe qui pour travailler sur cet univers-là. Quand on regarde les quatre auteurs, chacun a déjà des résonances dans cet univers-là, avait déjà fait des choses qui... Peut-être sur certains auteurs, ça n'aurait pas du tout marché, mais sur ceux-là, c'était assez sûr que ça marcherait. Troisième aspect, comme tu disais, le point de départ est quand même extrêmement large. Tu choisis un personnage parmi 32 et tu fais ce que tu veux dans l'univers. Donc au départ, on n'a mis aucune contrainte en fait, sur les auteurs. Et après, on a joué, on s'est un peu tiré la bourre sur ça. En particulier, Régis et moi, on s'est mis pas mal de contraintes l'un sur l'autre. Tu as mis beaucoup de contraintes sur l'histoire dès ton premier texte. on t'a renvoyé pas mal de contraintes dans la figure. Donc, mais là, c'est de l'ordre du jeu, et puis on s'en est accommodé, puis si ça n'avait pas fonctionné, on aurait fait marche arrière. Donc voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grosses difficultés dans un projet comme ça à répondre à la contrainte. Quoi. Ouais. Non, tu crois ?
Pour Nicolas, peut-être des contraintes. Du coup,
si, non, alors, c'est une contrainte plus globale qui est de travailler, ça va paraître bête, hein, mais avec des auteurs vivants. Non.
Attends, ça peut faire.
C'est mieux comme ça.
Mais quand c'est sur du Lovecraft ou du Jules Verne,
bah, personne ne te contredit.
Ils sont plus là. Ils sont plus là pour dire ah ouais ça, les chantaques, ils sont pas comme ça. Non, c'est pas. Là, on est face à un univers où c'est l'éditeur qui est le premier écrivain quand même de l'univers. Régis, qui a contribué à l'écriture aussi à une période, qui en plus est dans l'écriture, donc il y a quand même un positionnement. Alors pour revenir très rapidement sur le... On avait effectivement une bible de description de l'univers, en sachant que cet univers avait potentiellement des adaptations audiovisuelles, il y avait d'autres pistes, donc évidemment plein de choses avaient été
corrigées. La bible de description sans illustration.
Alors si, j'y viens justement, avec en plus... le travail de dessinateurs qui avaient déjà travaillé dessus à ces époques-là, qui avaient pas souhaité reconduire à d'autres...
Y compris à la Renaissance.
Mais il y avait même deux, trois images de Didier Graffet, entre autres. Il y a Didier Graffet qui avait fait quelques images dessus. L'autre dessinateur là, qui en a fait le plus, je ne me souviens jamais de son nom, mais qui lui est parti aussi en production, je ne sais plus, en Corée, ou enfin qui est parti sur d'autres gros projets, etc. Voilà. Moi, c'est vrai que les premières fois, c'est un projet moi, que j'ai refusé deux ou trois fois. J'ai fait au bout de trois ans, soit parce que ça... C'était trop proche d'autres projets sur lesquels j'étais, soit pour des raisons de temps, parce que physiquement c'était pas possible, quand un gros machin à gérer, puis, mais il y avait quand même ce côté-là. J'aimais bien en fait la Bible de base, je la trouvais très belle, je crois qu'il y avait des éléments où bah, moi ce que j'apportais c'était pas mieux quoi, dans ma tête, c'est pas, voilà, je voyais pas forcément l'intérêt que ce soit moi qui le gère. Voilà, quand quelqu'un a déjà bien travaillé dessus, bon, il n'y a pas... Là, il n'y avait pas de doute non plus, puisque les illustrateurs ne sont pas revenus sur le projet. Donc ça s'est fait. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est de travailler à partir d'une base qui est vivante, qui est toujours vivante, où il y avait des choses en gestation qui sont toujours là, on attend. On ne sait jamais. Je trouve que c'est un côté jamais facile, parce que on avait une entière liberté, mais l'entière liberté de donner ce que serait jadis à partir de maintenant, et c'est là que ça devient dur. C'est-à-dire de dire, ben voilà, jadis c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un commence à travailler sur jadis, il est obligé de regarder ça, parce que ça a été édité, lu. Et c'est pas le même rapport, on n'a plus du tout le même rapport d'un coup.
La Bible, c'est ça.
C'est l'une des responsabilités qui était un peu complexe en effet sur l'univers. C'est-à-dire que en décrivant, que ce soit en dessinant ou nous en écrivant, on le figeait. C'est-à-dire qu'on rendait concret des éléments qui auraient pu encore être négociables. C'est-à-dire qu'on rendait réel et sans doute à jamais dans cet univers fictif. On prenait des décisions donc, qui impactaient et qui, du coup, à un instant figeaient l'univers. À l'inverse, donc on avait cette grande responsabilité. L'autre difficulté d'écriture, elle n'était pas du tout de rentrer dans cet univers et d'y trouver ses marques. La vraie difficulté relevait de l'improvisation. C'est-à-dire qu'on savait, le jeu étant qu'on aurait entre chaque chapitre, on a écrit cinq chapitres chacun, entre chaque chapitre, on avait une réponse de l'autre. Ce qui était réellement pour moi, en tout cas, parce que je suis peut-être moins habitué à écrire des romans que Mathieu, Charlotte ou Raphaël, l'une des grandes difficultés, c'était de se dire, bon, mais je suis obligé de faire confiance. Je vais poser des éléments dans mon premier chapitre. Je n'ai aucune idée de ce que va être la fin de l'histoire. Au moment où j'écris ce premier chapitre, je ne sais pas du tout où on va aller, ce qui va se passer, quelles vont être les contraintes. Alors, donc c'était à la fois flippant et à la fois passionnant, parce que c'était extrêmement simple d'écrire. À chaque fois, on avait une période de 15 jours, 3 semaines, quand on recevait la contrainte, on avait 15 jours, 3 semaines pour envoyer nos textes. Donc il y avait quelque chose. Donc l'écriture était à la fois angoissante pour ça, et en même temps extrêmement facile, puisqu'à aucun moment on pouvait être saisi de la moindre crainte de la page blanche. Et arrivé, c'est ça qui est, c'est de la partie cadavre exquis un peu du livre, pour moi, des moments les plus magiques, c'est quand on s'est rendu compte que finalement, des éléments qui nous semblaient complètement anodins, posés dans le premier chapitre, prenaient une ampleur mais que jamais on aurait pu soupçonner, et que se cachait dans ces premiers textes, alors qu'on n'y avait pas du tout pensé, la fin de l'intrigue, la solution, le rebondissement. Et ça, c'était ça, c'est cette partie-là de Kalarewski rajoute vraiment dans. Moi en tout cas, je ne sais pas comment Charlotte a vécu ou Raphaël Tavaro différent, mais ça a été un des grands plaisirs d'écriture. J'espère qu'il se ressent pour le lecteur. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, Charlotte.
Si tu t'en rappelles.
Si je me souviens bien, le truc, ça a été à partir du moment où il y a eu la pièce de théâtre et les révélations. Et j'ai surtout souvenir qu'il y a eu une division qui était « Est-ce qu'on prend le parti du sieur ou de maestro ?» Alors, je pense que j'ai vraiment vécu comme un personnage de jeu de rôle, et j'ai continué à écrire là-dessus en me disant « Est-ce que... » Donc, il n'y a pas eu de... Je ne sais même plus qu'est-ce que tu m'as demandé. Non, mais c'est la fin de journée.
L'improvisation, en fait, de ne pas savoir ce qu'on faisait de texte en texte.
J'ai vraiment vu ça comme un jeu, et j'ai pas du tout flippé ni quoi que ce soit, mais j'ai plutôt pris ça vraiment comme une partie de jeu de rôle écrite.
C'est un peu le livre dont vous êtes l'écrivain.
Voilà, c'était ça. Et ce qui était génial, c'était de ne pas savoir quel élément les deux zigotos allaient me renvoyer, tout en sachant que je ne savais pas que lui était un zigoto en question. Et après, il a fallu faire avec, effectivement, la révélation de la pièce de table. Mais si vous n'avez pas lu le livre, on ne peut pas vous en parler plus. Mais en gros, après, ça a rajouté effectivement un élément et une autre dimension. Il a fallu repenser certaines choses. Et je trouve que c'était, et qui était du coup, est-ce que, en tout cas pour Eris, est-ce que je reste loyale à Maestro ou est-ce que je viens m'accuter ? Voilà, ça a été la question essentielle d'Eris. Mais je crois que je n'ai pas du tout répondu à ta question, et voilà, c'est pas grave en fait.
Sur la contrainte, il y a un truc important quand même qu'on peut dire. Je pense que c'est que je sais plus lequel de vous deux l'a dit, mais il aurait pu y avoir un vrai censeur qui était Frédéric, quoi. C'est quand même son univers, il aurait pu nous dire non, ça non. Et je pense qu'un projet comme ça marche bien, donc c'est un auteur vivant, comme tu disais. Ça marche bien parce que Frédéric a une extrême générosité sur son univers, c'est-à-dire qu'il nous l'a confié et il nous a laissé faire beaucoup de choses comme on voulait. Il y a des choses sur lesquelles il a été intransigeant, mais très peu. Moi, je l'ai consulté sur un ou deux trucs que vous introduisiez. Genre, on peut vraiment faire ça ou pas ? Il me dit non, vas-y.
Mais oui.
Oui, oui, les dragons. Ouais. Et les animaux, pas d'animaux. Ça. No way. Et changer les cartes de tarot. Ça, c'est un truc que j'ai voulu faire parce que j'aurais eu pour l'intrigue besoin que les cartes soient pas tout à fait celles qu'elles étaient. Mais disons, ça, c'est écrit dans le marbre, on peut plus y toucher. C'est comme ça. C'est un truc qu'il a vachement médité en amont. Mais sur l'intrigue, sur les personnages, tout ça, on était vraiment extrêmement libre. Donc ça, c'est hyper important avec un auteur vivant. Si le gars, il n'a pas donné son univers en pâture à des auteurs, c'est mort, quoi. Et moi, c'est la deuxième fois que je le fais. Et c'est la deuxième fois que je le fais, parce que le premier Ouroboros, c'était sur Abîm. Et là, l'auteur, c'était Mathieu, donc qui est devenu auteur...
C'était une vengeance que tu puisses le manipuler à ton tour.
Non, alors même pas, parce que sur Abîm, il avait vraiment déjà complètement donné son univers. On en faisait ce qu'on voulait, vraiment, quoi. Donc ça, c'est important. Si l'auteur vivant n'est pas généreux, ça, à mon avis, ça peut bloquer. Mais là, dans ce cas-là, ça va pas du tout bloquer.
Tu parlais tout à l'heure, Régis, de la possibilité d'ouvrir le livre à d'autres créations, à l'imaginaire des rôlistes. Est-ce qu'il y a des auteurs, est-ce qu'il y a des plumes que tu verrais rentrer dans ce... Enfin, que vous verriez rentrer dans cet univers facilement et que vous, avec qui vous pourriez vous entendre aussi facilement, ou genre les autres, ils écrivent que...
Ah, j'en ai un qui me vient comme ça.
Ah oui, vas-y,
dis-le. Ouais. J'en ai un qui me vient comme ça, qui n'est, à part nous, bien sûr, hein, Raphaël Albert, avec qui j'ai bossé sur Un an dans les airs, et qui a un univers de fantasy un peu... Ouais, complètement.
Un peu stimulant.
un peu steampunk, mais c'est pas ça qui compterait dans cet univers-là, non, mais truculent.
Oui, ben, Raphaël a un sens du rebondissement.
Tout à fait.
Qui irait bien, voilà, c'est très feuilletonnant, et ouais. Ça irait bien, évidemment.
Et il y en a sûrement plein d'autres. Hein, mais...
Moi, je vois bien les deux Fabien.
Ouais.
Clavel et Fernandez, pour des raisons.
J'allais demander
parce que j'allais dire son anti-légende, hein, qui est complètement. Qui fait quelque part écho à jadis. Hein, Fabien Clavel, il a écrit un roman qui se passe dans un univers qui est l'Index, où en fait tous les personnages de fiction existent. Et donc lui, son histoire est basée notamment sur Don Juan et Manon Lescaut. Et Fabien Fernandez, pour son côté relis, ses manipulations, sa plume et ce genre de choses. C'était la déclaration d'amour. Voilà.
Nicolas, est-ce que toi, tu vois quelqu'un d'autre dessiné? Avec toi, illustré à des auteurs. Non, je vais rester le seul illustrateur, c'est bon.
Ah bah là, du coup, je sais pas.
Vivant.
Parce que je pense à Méduse.
Ouais, je te vois bien.
Si Léonard de Vinci voulait bien faire un auteur,
ça te fera
quand même, c'est sympa. Non, je pensais à Jérôme Moirez. Je sais pas si ça collerait. Mais il y a un côté. Je trouve qu'il fait partie de ces écrivains qui, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise en disant ça, je ne sais pas s'il arrivera à travailler au travers d'un canevas déjà existant comme ça d'univers, mais vu ce qu'il amène par lui-même comme univers, c'est tellement personnel, c'est-à-dire qu'il y a un mélange, quand je dis c'est tellement personnel, c'est-à-dire qu'il y a un fond qui est très sérieux et avec un second degré permanent, qui vient un peu en dérision de ce monde-là et qui rend les choses très humaines. Et je trouve que pour jadis, ça correspond bien, cette imbrication.
Et en illustrateur, alors, vivant.
Je prends de moi.
Allez.
Pour un auteur étranger, il n'y a pas de risque.
Non, mais bizarrement, enfin, je ne sais pas.
Non, mais ce n'est pas une question piège, Nicolas.
Parce que finalement, la Renaissance est une période assez peu dessinée, en fait.
Oh, quand même.
Elle s'est dessinée elle-même.
Non, mais les morts.
Non, elle s'est dessinée elle-même. Elle s'est dessinée elle-même, en fait.
Mais ça ne vient pas tout de suite à l'esprit. Ça va sans doute arriver, mais pour ça que je dis Méduse, parce que...
Parce que Montrouge.
Il y a à la fois la dimension architecturale et la dimension humaine. Il fait partie de ces aussi, pas forcément, mais il fait partie de ces gens qui avaient cette capacité à pouvoir tout gérer. Et ça, c'est juste fabuleux, quoi. Justement, au travers de 56 styles graphiques différents, en allant de l'abstraction à l'ultra figuratif. Et donc, voilà. Et avec suffisamment de baroque pour entrer dans ce genre d'univers.
Alors moi, c'est un autre sujet, toujours jadis. La ville infinie jusqu'où? Quelle est la part d'inconnu concernant cet univers? Peut-être que ça n'a pas été abordé encore, mais sûrement ça sera abordé en jeu de rôle. Est-ce qu'on peut en parler en deux mots?
Non, il faut absolument que ça reste infini. C'est un présupposé de l'univers qui est extrêmement important. Et même quand on parle, moi j'ai la vision que je crois que tu as évoqué tout à l'heure, que plus tu t'éloignes du soleil, moins il fait chaud, moins des choses comme ça. Mais même, je crois que Frédéric, il a même pas cette vision-là. Et pour lui, on peut étendre la ville jusqu'à l'infini, dès l'instant qu'il y a des gens pour la peupler. Et c'est pas encore acté du tout, mais il y a l'idée dans le jeu de rôle que la communauté des rôlistes va pouvoir continuer à peupler la ville, fabriquer ses propres ans, aller plus loin que là où on est allé nous. Donc non, elle restera infinie.
La notion d'exploration va pas exister.
Alors, il y a des zones de ruines, donc, mais non, on découvre. Enfin, si on a mis à la dernière minute avec Frédéric dans le lexique, on a mis une espèce d'Amérique de jadis, c'est-à-dire qu'en allant au-delà des ruines, on trouve une anse qui existe un petit peu plus loin, à l'ouest, et qui est développée. Quoi. Donc il y a quand même l'idée de ruines. Il y avait l'Empire qui a laissé des ruines, donc il y a des. Toutes les zones ont été peuplées à un moment ou à un autre par les déboires de la démographie. Il peut se passer qu'aujourd'hui, il y a des endroits qui soient explorables parce que en ruine, mais il n'y a pas d'exploration au sens vierge du terme, quoi, je pense.
Et encore un peu des éléments un petit peu techniques comme ça, qui est au niveau du fonctionnement bureaucratique et éventuellement ecclésiastique. Est-ce que tu peux en parler deux secondes?
Ouais. Ecclésiastique, pas trop, parce qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a une espèce de religion de Dame Fortune qui est portée par les ménestrels, comme tu disais tout à l'heure, Régis, mais c'est pas.
Athéiste.
Oui, si on considère que Dame Fortune est vraiment une déesse, c'est un monde monothéiste, clairement. La bureaucratie, alors il y a cette pyramide des Fanfreluches, donc il y a une organisation sociale qui est complexe. Chaque personne naît avec un rôle dans la société. Donc il y a des malfrats, il y a les hypocrites qui sont des malfrats, il y a des gens qui sont des serviteurs, les servantesses, et puis tout ça, chacun a son rôle prédéfini là-dedans. Donc il y a une espèce d'organisation assez bourgeoise, avec une pyramide, ça s'appelle la pyramide des Fanfreluches, assez bourgeoise comme ça. Et ça s'arrête un peu là, c'est-à-dire que dans une anse donnée, il est tout à fait possible que le plus puissant de facto soit pas du tout celui qui a la Fanfreluche, qui apparaît comme étant la plus puissante. On a mis en scène quelques... Comment il s'appelle de la Lune, c'est un quoi déjà? Guillaume de la Lune, c'est un... Majestès. Les majestès qui sont les gens soi-disant au sommet de la pyramide, en fait, on se rend compte qu'ils ont très très peu de pouvoir. En fait, ils ont de la superbe, ils organisent des fêtes mémorables, des choses comme ça, mais ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Un marchand, par exemple, peut avoir beaucoup plus de pouvoir qu'un majestès. Donc il y a cette idée que dans chaque Fanfreluche, on peut en fait devenir extrêmement extrêmement puissant.
C'est même le grand thème.
Tout à fait.
C'est le thème essentiel de jadis, c'est-à-dire que Dame Fortune a tissé votre destin. Et vous êtes à jamais piégé dans ce destin. Si vous êtes né pauvre, vous serez pauvre. Alors ça prend beaucoup.
C'est la vraie vie.
Et ça ressemble un peu à la vraie vie. Tout principe du jeu de rôle étant de savoir dans quelle mesure on peut ou non contredire son destin à l'intérieur de l'univers. Mais c'est vraiment le thème principal de l'univers, celui. Et qui rebondit avec celui des mille vies, parce qu'il y a une grande fatalité dans cet univers, puisque cette vie-là, c'est pas terrible, mais comme la prochaine sera mieux. Et en même temps, ça nous fait nous poser des questions sur est-ce qu'on a, et on a réfléchi ces questions-là, est-ce qu'il y a un système de karma, c'est-à-dire est-ce que ma vie, et en l'occurrence, non, on a fait le choix que non, c'est pas, il n'y avait pas de morale, un acte. Moralement répréhensible, n'aura pas d'impact sur votre vie future.
Lâchez-vous.
On a réfléchi, on s'est posé ces questions-là, mais c'est vraiment le thème essentiel de Jadis, qui est quasiment, même si ça peut être un peu énorme à dire comme ça, mais qui est quasiment bourdieusien, qui est de dire attaché, enfermé dans le rôle social. Et aux écrivains ou aux rôlistes de casser ces règles dans les parties futures.
Et en l'occurrence, les personnages du jeu de rôle ne sont pas eux, n'ont pas un rôle figé peut-être.
Tout à fait.
Non, dans le jeu de rôle, tu as ta ligne de texte et tu dois les lire.
Pas de dé, rien.
Il y a quand même une espèce de bureaucratie qui reste dans Jadis, mais qui est l'héritage de l'Empire en fait. Il y a les guildes et la seigneurie. Donc l'empire ancien était, lui, très bureaucratique, avec une hiérarchie extrêmement précise. Et elle reste au travers de deux institutions. Donc la seigneurie, qui est les seigneurs comme mon personnage, qui sont là pour maintenir une espèce d'ordre. Et les guildes qui sont là pour faire fonctionner le business, quoi. Il y a une guilde qui s'occupe du courrier. Il y a donc toutes les tâches pour lesquelles il faut un truc assez organisé pour faire tourner la machine, si je puis dire, sont organisés dans des guildes qui sont un peu à part de la société. Les guildiens ne sont pas vraiment dans la pyramide des Fanfreluches et organisent les trucs que je dirais bureaucratiques. Mais ça permet aux autres justement de se balader en termes de puissance un peu où ils veulent. Quoi.
Alors, avant de donner la parole à la salle, qui a certainement des questions...
Qui dort.
Juste une pour revenir sur votre technique de travail. Je me rappelle avoir fait une petite conférence avec Mercedes Laquet qui expliquait qu'elle travaillait avec un groupe d'auteurs et que sur ses personnages, elle distribuait les personnages aux gens avec qui elle travaillait et elle écrivait. Et en fait, ils bossaient sur un Google Doc et les dialogues prenaient plus de vie et plus de profondeur parce que chaque auteur écrivait les lignes. Est-ce que vous voyez travailler comme ça, ou est-ce que à un moment, tu vois, elle écrit son personnage et si elle est en relation avec le personnage de l'autre auteur, c'est
quand l'autre. Travaille, oui, quand t'as fait des romans plusieurs.
Ben, en fait, c'est, les romans sont à son nom, ouais. mais elle les travaille à plusieurs.
D'accord.
Elle donne un personnage à un assistant qui écrit pour elle.
Non, on l'a pas fait.
Non,
c'est ouais, le seul truc qu'on a fait comme ça, mais c'est pas du tout le même processus, c'est que Charlotte et Mathieu se sont vraiment rencontrés. Leurs personnages se sont rencontrés. Nicolas les a fait vraiment rencontrer. Il les a enregistrés. Et on a fait une première retranscription in extenso de ce qu'ils se sont vraiment dit. Et après, on l'a retravaillé tous ensemble pour que ça soit plus correct dans l'univers. Et la scène, elle est dans le bouquin in extenso. Ouais. Mais c'est pas du Google Doc, c'est de l'enregistrement en vrai.
Et puis, on a fait un tirage de tarot.
Il y a un tirage de tarot.
Il y a un tirage de tarot dont on avait décidé en fait, pendant qu'on s'était vus. Et qui ensuite a été fait après, mais en gros, j'ai demandé à Mathieu de me donner des nombres, ouais. Et après ces nombres, enfin de prendre des nombres au hasard dans un bouquin, et moi je lui ai fait son tirage, j'ai interprété le tirage, et on retrouve le tirage en fait dans le roman.
Et puis moi je vous fais pas mal parler dans la pièce de théâtre, je vous ai vaguement donné un droit de regard sur vos répliques, mais...
Bon, on l'a eu, hein. Enfin, en chanson, on l'a eu.
Vaguement, j'assume le vaguement. Et vous avez quasiment rien changé. Et c'est même rigolo d'avoir. Non, mais c'est rigolo d'avoir le même personnage avec des subtiles différences de point de vue, en fait. C'est-à-dire que quand je fais parler Régis, il est beaucoup plus prétentieux. Non, en fait.
Régis, c'est un droit de réponse. Est-ce que quelqu'un a une question? Allez.
Moi, j'ai même deux questions, mais elles sont très courtes. Les réponses risquent d'être
longues. Ah, les réponses, on est...
Voilà. La première, c'est, est-ce qu'il y a... j'ai l'impression que vous avez commencé à travailler il y a très très longtemps. En fait, c'est un projet qui a été fait en crowdfunding. Est-ce qu'il y a une différence entre avant le crowdfunding, pendant le crowdfunding, etc. C'est-à-dire, est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce que le crowdfunding vous a amené à changer des choses? Et je vous pose tout de suite la deuxième.
Parce que sinon, on ne se souviendra pas. C'est,
est-ce qu'il y a Fred Vell, vous en a parlé ou pas, est-ce qu'il y a un rapport dans son idée ou dans son imaginaire, vous y avez pensé, à la Lady of Pain qui règne sur Planescape, qui est la ville infinie, le donjon sur lequel... C'est parce que de temps en temps, en vous écoutant, ce sont des vieilles réminiscences.
Pour le crowdfunding, c'est arrivé en cours de route, et pour les écrivains, ça n'a absolument rien changé. Le processus d'écriture était lancé, on a juste un peu perdu Raphaël pendant quelques semaines, ouais. Parce qu'il s'est énormément occupé du crowdfunding. Donc c'est la seule chose, la seule perturbation
c'est
eu lieu. Là où ça a changé... C'est pour Nicolas qui d'un coup s'est retrouvé à devoir dessiner 72 cartes de tarot.
78.
78.
Au départ même, on ne voulait même pas le faire. Parce qu'on avait commencé pour être très précis, on a commencé en janvier. Enfin, moi, même la première image, elle datait de l'été d'avant. J'avais fait une ou deux images. On a vraiment commencé, en guillemets, en production à partir de janvier. Fred, quand il vient avec l'idée, lui-même se tâte et il dit bah voilà, est-ce qu'on franchit le pas, est-ce qu'on fait le crowdfunding? Il nous dit ça en avril.
C'est au moment où on a joué la pièce, là. C'est le jour où on a joué la pièce.
Donc on se dit bon, on savait, c'était un problème technique, on savait qu'on avait un mois et demi de travail encore dessus, tous ensemble. Et c'était soit on se faisait un mois et demi de travail avec le crowdfunding qui passe au-dessus de nos têtes à préparer. Ce qui est juste cauchemardesque, ou alors est-ce qu'on reste tranquille et qu'on finit tranquille dans notre coin tout le travail. Autant dire qu'au début, moi j'avais franchement pas trop envie. Ce qui s'est pas trop mal arrangé, c'est que l'écriture a quand même été finie au moment où finissait le crowdfunding, en gros le livre était fini quand même.
L'essentiel.
Jusqu'au chapitre 6, enfin jusqu'au 6 bloc, c'était fait. Donc effectivement, il y avait des images, il y avait pas mal d'images à pondre entre. Sinon que le jeu de tarot, même pour la petite histoire, on s'est même posé la question, c'est-à-dire que c'était... le jeu de tarot, on ne savait pas si on voulait le faire apparaître à l'intérieur du livre lui-même, déjà au départ. Ouais. C'était l'une des questions existentielles aussi qu'on avait régulièrement en disant... on fait référence au tarot, est-ce que je commence à dessiner le tarot?
je leur disais, ça ne sert à rien, si je commence à faire le tarot, je fais tout le tarot. Alors, tout le tarot, c'était simplement les dames majeures, les 22. Donc, pas les 78. Ça s'est décidé en mai. En mai, j'ai dit, banco, on fait, c'était une discussion, toi tu ne voulais plus, finalement, tu as dit, non, arrête, tu ne vas pas t'embarquer dans un truc débile.
Bah, tu avais déjà ta carte à la con.
Ta carte encore plus débile, tu vas encore plus de place. Tu peux nous emmerder encore avec les cartes de tarot. Non, mais quand même, ça permettait d'expliquer des choses aussi dans l'univers. C'était vraiment une sorte de seconde lecture aussi de l'ensemble de l'ouvrage, indépendamment de l'édition du jeu de tarot lui-même. Et du coup, quand le crowdfunding est arrivé, après, c'était 2-3 discussions quand même avec Fred de dire, bon, t'es capable, là, c'est bon, on peut lancer les 78 cartes ou pas. Voilà, mais voilà, pas très chaud au départ quand même.
Juste pour préciser quand même au sujet du crowdfunding, le livre serait paru de toute façon. C'est-à-dire que le livre était enclenché, le crowdfunding, en fait, a permis de faire une plus belle édition d'ouvrage. C'est-à-dire que la souscription a permis d'emblée proposer un ouvrage avec une jaquette, une toile, une meilleure qualité de papier. C'est ça que nous a offert réellement le crowdfunding, c'est de pouvoir faire d'emblée un plus bel ouvrage en ayant un point d'équilibre économique qui permettait de suite sortir un livre de plus belle facture. Mais le livre aurait eu lieu dans une forme sans doute moins belle s'il n'y avait pas eu de crowdfunding. Et pour Planescape, pour répondre au sujet de Planescape, je n'en ai aucune idée.
Pour répondre sur Planescape, je n'en ai aucune idée non plus. Il faut demander à Frédéric. Bon, le mythe de Dame Fortune, c'est quelque chose qui parle, qu'on doit retrouver à plein d'endroits différents. Sur le crowdfunding, comme on disait, au début, on n'était pas du tout convaincu qu'il fallait le faire parce que le bouquin allait sortir de toute façon. Le moment où j'ai trouvé que ce crowdfunding était vraiment intéressant, c'est quand j'ai compris que ça allait bénéficier à absolument tout le monde. C'est-à-dire, le bouquin est sorti pour le même prix en librairie qui était prévu depuis le début, en étant plus joli. Donc les gens qui l'achètent en librairie ont un plus bel objet. Les crowdfunders ont un objet qui est augmenté, il est dans une boîte. L'idée de la boîte, c'est ça précisément, c'est pour que le même bouquin qui sort en librairie puisse aussi être donné aux contributeurs avec du contenu additionnel. Nous, on a gagné plus d'argent, on vous le cache pas, enfin, c'est pas des milliers des cents, Non, c'est pas des milliers des cents, mais ça augmente les droits d'auteur, donc bon, pourquoi pas, quoi. Évidemment, pour l'éditeur, c'est intéressant parce que ça lui fait son avance sur trésorerie. Donc, c'est le moment où j'ai trouvé que le crowdfunding était intéressant, c'est quand j'ai compris que ça allait vraiment augmenter l'objet et que tout le monde allait bénéficier de ce truc-là. Quoi.
Une dernière question.
Une question stupide, mais est-ce que vous comptez ouvrir l'univers? Parce que vous parlez de jeux de rôle, est-ce que vous allez accepter des versions en tant que version légitime? Des ajouts à l'histoire en tant qu'ajout légitime qui pourraient entrer dans la construction de l'histoire.
N'étant pas créateur, je ne sais rien, mais il me semble que si on décide d'ouvrir l'univers de Jadis aux rôlistes et de leur donner la possibilité de s'approprier des anses, ça veut dire qu'on leur laisse aussi la possibilité d'avoir des tampons officiels dans des magazines comme Jeux de Rôle. Enfin, pour moi, ça me paraît évident. Mais après, il faudrait poser la question à Frédéric.
Moi, ce qu'il m'a dit là-dessus, c'est que, alors évidemment, quand tu fais un jeu de rôle, tu donnes ton univers à tes joueurs et à tes maîtres de jeu, ils font ce qu'ils veulent, hein, ça c'est présupposé. Il y aura une ligne éditoriale claire, il y a quelqu'un qui est identifié qui va être responsable de la ligne éditoriale, donc les contributeurs sont recrutés par cette personne, ils sont dans la ligne, tout ça. Le gros pari, et on ne sait pas encore si ça va aller loin ou pas, c'est vraiment d'aller encore plus loin dans ce que tu dis, c'est-à-dire d'ouvrir vraiment l'univers et à ce que des gens extérieurs puissent. Peut-être sur une plateforme internet, proposer des choses. C'est pas encore décidé du tout. Mais cette idée de ville infinie, de gens qui s'incarnent dans la ville infinie, ça se prête extrêmement à ce processus-là. Et l'idée, c'est de faire ça. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Enfin, est-ce qu'ils vont y arriver? Parce que c'est pas nous qui dirigeons le jeu de rôle. Hein. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Ça, on verra. Mais ce serait bien.
Mais oui, mais on serait de toute façon, comme tu le dis, très heureux d'avoir des fanfictions dans Jadis. Ouais. Hein. Je serais le premier à les lire. Tout le monde est bienvenu. Hein.
C'est vraiment un univers qui s'y prête.
Une dernière question?
Oui, c'est vraiment une question sur l'univers en question. Je ne l'ai pas lu encore. Donc,
tu sors.
C'est vrai.
Non, tu l'achètes. Sans pas, il l'achète.
Il l'a peut-être chez lui déjà.
Non, vous avez beaucoup parlé du tarot, mais je ne sais pas en fait en quoi ça consiste exactement. C'est lié à Dame Fortune, ouais. C'est pour lire le destin des gens.
Ok. Alors, il y a deux. On va dire qu'il y a trois niveaux. Il y a le fait que Frédéric Weil, qui est donc le créateur donc, de cet univers, est un passionné de tarot et qu'une de ses sources d'inspiration est le Château des Destins Croisés d'Italo Calvino, donc qui se fonde sur des cartes de tarot. Ça, c'est pour le côté, on va dire, un peu plus littéraire. Dans Jadis, en fait, le tarot d'Anne Fortune est le moyen qu'utilisent notamment les Célènes pour lire la destinée des gens, pour prédire des choses, et généralement, elles ont tendance à se réaliser. Donc, quelque part, il est tout à fait possible de décider de l'avenir de quelqu'un en lisant les cartes de tarot. Ensuite, le système du jeu de rôle va être fondé sur les tarots, et pour l'instant, les tests qu'on a eus, c'est une création de personnages grâce au tarot. C'est-à-dire, selon les arcanes que tu tires, arcane mineur ou arcane majeur, tu as ton destin qui se dessine petit à petit. Donc voilà. Après, ce qui était intéressant aussi, effectivement, dans le processus de création de ces tarots, c'était vraiment savoir aussi, comme dans le tarot réel, toute la possibilité d'interprétation qu'on peut avoir, le jeu qui peut en découler, les mensonges aussi, parce que c'est ce qui est drôle. On s'est même amusé, mais ça c'est de la faute de Nicolas et Raphaël, à inventer des processus de lecture de tarot impliquant des mains coupées, de la torture. C'était assez marrant.
C'est ta faute, ça.
Non, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai commencé.
T'avais qu'à le remplir, ton coffret.
Mais bon.
L'intérêt des tarots, c'est aussi que, comme tous les gens qui habitent Jadis ont vécu plusieurs dizaines, centaines, on ne sait pas exactement de vie. Il y a vraiment, à travers les tarots, c'est vraiment une méthode divinatoire, mais qui permet aussi d'avoir des flashs de ses vies précédentes et de révéler aux personnages des vies précédentes et pourquoi pas des compétences précédentes ou des souvenirs de vie d'antan. C'est le côté Bollywood un peu de Jadis, où on peut rencontrer un personnage qu'on a déjà aimé dans 25 vies précédentes. Et par rapport à la divination sur le futur, comme Dame Fortune a tissé son destin, elle sait même exactement la longueur du fil de vie que vous possédez, le tarot et les Célènes ont un pouvoir de divination qui prend dans cet univers un sens encore plus particulier, qui est de pouvoir dire, mais voilà, il ne vous reste que quelques mètres de fil à vivre.
Moi, j'ajoute un quatrième élément sur le tarot, c'est Charlotte elle-même, qui s'en est emparée dans son texte de façon incroyable. Il était là, le tarot, dès le début, mais tu l'utilises tout le temps, et puis même, tu vas jusqu'à une énorme révélation à un moment sur le tarot lui-même, donc tu t'es vraiment emparé de cette question-là.
C'est-à-dire que l'Allemagne nazie a gagné la guerre.
Au tarot, tout est possible. Bon, ben, on va s'arrêter là. On vous dit merci d'avoir assisté à cette conférence, et merci aux auteurs. Et...